étaient des juifs de culture grecque, savent excuser. Ils ont inversé la Torah et on a résulté de 2000 ans d'histoire chaotique. Bon, on va y mettre un point final à ces 2000 ans d'histoire. Je reviens donc à notre sujet. Vous voyez que dans cette petite phrase du Midrash, qui dit que la Hakerna des fils de Jacob à Jacob correspond au Hakerna de Tamar Juda, il y a un monde de sagesse, que ce n'est pas une association d'idées formelles. Okay. Et là, ce que nous allons apprendre, c'est qu'effectivement, les fils de Joseph, Juda et leur père, vont dévoiler à Jacob que c'est bien lui qui doit assumer la difficulté de l'histoire de Joseph, c'est-à-dire la difficulté de l'histoire de l'exil. Là, je réouvre une petite parenthèse, encore la question a été reposée après le cours hier, et c'est normal, parce que des fois je fais allusion à des notions qui, pour certains d'entre vous, ont été déjà étudiées dans notre séminaire, et d'autres pas encore. C'est là qu'il faut bien diagnostiquer cela. L'histoire de Jacob est l'histoire d'un personnage qui a deux identités. Au niveau où il s'appelle Jacob, et au niveau où il s'appelle Israël. C'est le même personnage. Mais quand le texte le désigne comme Jacob, c'est l'identité Israël liée à l'universel humain, donc dans la perspective de l'exil et de la galoute. C'est clair ? Jacob est le nom d'Israël en exil. Israël est le nom de Jacob quand il revient en Israël. Israël, c'est le nom messianique de Jacob. Jacob, c'est le nom galoutique d'Israël. C'est clair les noms que j'emploie ? Oui, c'est Jacob qui envoie Joseph en Égypte, c'est pas Israël. Est-ce que c'est clair ? Alors, si c'est suffisamment clair, je me borne à récapituler ainsi. Nous avons ces deux lignées, Joseph-Judas. Joseph, c'est le fils de Jacob. Judas, c'est le fils d'Israël. Et c'est pourquoi il faut comprendre ces deux tentatives de la messianité à un niveau très, très, très épuré. Hein ? Il y a une tentative qui est la diaspora, c'est Joseph. Il y a une tentative qui est la Géoula, c'est Judas. Vous voyez ? J'ai fait allusion hier à cela, ce n'est pas tellement le sujet central, mais je crois qu'il faut bien le comprendre. Alors j'ajoute ceci. Depuis quelques années, je crois qu'il y a une nécessité de l'ajouter, étant donné le caractère assez, impasse de ce dialogue Israël-Diaspora. Et je perçois d'ailleurs l'humour de la situation. Je viens de Jérusalem, vous parlez à Paris de ces choses-là. Et c'est que la question n'est pas est-ce que c'est Joseph qui a raison, est-ce que c'est Judas qui a raison. Les deux ont raison. C'est deux stratégies que le Midrash montre, c'est Dieu qui fait ça. Et l'un et l'autre. Okay. Et Jacob est interpellé par ses fils, assume, c'est toi. Et Tamar est interpellé, Judas est interpellé par Tamar, assume, c'est toi. Et le Midrash ne se gêne pas vous dire, c'est Dieu qui fait ça. C'est clair, on l'a lu, je vous ai inventé. La vraie question, c'est dans quel temps nous vivons. Encore une fois, la question n'est pas est-ce que Joseph a raison, est-ce que Judas a raison, mais dans quel temps nous vivons. Ils ne peuvent pas avoir raison ensemble. Dans le temps de Joseph, c'est Joseph qui a raison. Dans le temps de Judas, c'est Judas qui a raison. Et vous voyez comment la question est simple. Il s'agit de se demander à quel temps nous vivons-nous. Si nous vivons dans le temps de Joseph, eh bien, la capitale du judaïsme, c'est Brooklyn, c'est pas Jérusalem. Si nous vivons dans le temps de Judas, la capitale de la diaspora, Brooklyn y compris, c'est Jérusalem. Et il faut ouvrir les yeux et être clair. Et ça marche. Alors ceci dit, il y a des situations personnelles, chacun avec sa problématique et ses difficultés, mais l'essentiel c'est d'être lucide, de savoir qui on est, où on est, où qu'on soit. Est-ce que c'est clair surtout ? Vous voyez à quel point le problème est simple, de le prendre au niveau du Midrash. Et je dirais un peu de cette manière, si nous vivons le temps de Joseph, c'est Joseph qui est le juste, Joseph Atzadik. Et pendant 2000 ans, c'est Joseph qui est le juste. Ça s'est terminé en 48, c'est clair. Et l'annonce qu'elle est terminée, c'est 33, c'est clair. Et puis, 1917, Balfour, quand vous choisissez le déclenchement des symptômes, là où vous voulez. Et puis, si c'est le temps de Judas, comme on a étudié hier, alors c'est Moïse qui est le prophète. Il faut choisir. Je crois que... Il suffit d'un peu de bonne foi pour arriver à dénouer cette situation inextricable du dialogue Israël-Diaspora. Et, oh, j'ai pas menti ici, je vous montrerai. Vous savez, dimanche, il y a eu une grande Hiloula, sur ça. Je n'ai pas dit Hiloula, mais et pour Yom Yerushalayim. Je ne sais pas si vous avez compris. Et alors, c'est jeudi soir à Yom Yerushalayim, on aura une soirée d'études après la fin du séminaire pour Yom Yerushalayim, le jour de Yom Yerushalayim. C'est demain, déjà, oui. Le temps va vite. Et alors, j'ai reçu un diplôme de la Hiloula, il faut que je vous montre ça. Qui aurait le courage de me porter ma serviette, elle est dans un des deux bureaux là-bas. Ok. Bien. Alors, en attendant, si vous avez une question sur ce que nous en doit, le Hakama Hakama, est-ce qu'on a fini de répondre à tous nos problèmes? Pardon.
Je voudrais revenir sur la question du péché originel que vous avez mais c'est pour rejoindre le sujet du séminaire.
Oui, j'en prie.
Le péché originel a été défini très tard par saint Augustin, en fait, pas par saint Paul, contrairement à ce qu'on croit. Il a donc fallu.
Quoique, il y a des textes pauliniens. Qui...
Amorcer. Oui. Presque trois siècles pour que ça devienne un dogme. Et est-ce qu'on ne peut pas voir là simplement l'effet d'une rupture de la tradition orale? Et c'est là que je pourrais vous poser la question qui rejoint oui. Le rôle même des langues dans cette transmission. Les chrétiens se sont trouvés en face d'un texte qu'ils ne comprenaient plus, mais ils avaient le texte et ils ont cherché à l'interpréter.
Voilà, très bien. Vous avez absolument raison, je vais formuler peut-être de cette manière. Il y aura allusion ce soir inévitablement. C'est une irruption de la mentalité païenne sur le texte biblique, à travers le grec. Et je dirais, nous avons un texte dans l'histoire de Jacob qui le montre bien. C'est la théologie païenne. À l'origine, il y a la colère de Dieu. Alors que la théologie hébraïque, à l'origine, il y a la création du monde. Et ce sont deux sensibilités religieuses incompatibles. Le christianisme a réussi le tour de force de les mélanger. C'est lorsque, je ne sais pas si nous avons suffisamment de temps, mais certains d'entre vous vont s'en souvenir, il y a 4-5 ans, nous avons étudié ça. C'est lorsque Jacob arrive à Haran, il cherche des bergers, vous vous rappelez? Et alors, il rencontre des bergers, il leur demande « D'où êtes-vous ?»« Me'aïn Atem, d'où êtes-vous ?» C'est le pshat. Ils répondent « De Haran ». Et alors, laissez-moi expliquer. Après, ça va se bibouliser. Et juste après, il dit, connaissez-vous Bethuel, fils de Nahor, la femme d'Abraham? Il dit, on connaît. Il leur dit, y a-t-il la paix chez lui? Il dit, y a la paix. Et à ce moment, Rachel arrive. Il y a encore une scène assez extraordinaire. Alors, ça, c'est le pshat. D'où êtes-vous? De Ha. Le Midrash va s'installer. Et le Midrash dit, et presque leur dit, mes frères, vous venez du néant. Me'aïn Atem, vous venez du néant. C'est-à-dire, nous sommes des créatures, nous sommes des créatures. Okay. Et pendant, nous venons de la colère de Dieu. Me'haran, Me'haron approche leur nom. Okay. Et alors il leur répond, mais ne connaissez pas la famille d'Abraham, hein, ils ont connu. Il n'y a pas la paix chez lui, il y a la paix. Et tout le message est là, le dialogue entre Israël et les païens. Okay. C'est-à-dire, quel est le problème à résoudre? Eh bien, le message de Jacob, c'est de dire, nous sommes des créatures, ce que nous avons à faire, c'est la paix entre les hommes. Voilà le problème que nous avons à résoudre. Étant donné que nous sommes créés, nous avons à résoudre le problème moral. Et qu'est-ce que le problème moral? La paix entre Caïn et Abel. C'est le récit biblique. Alors, les bergers sont des bergers, des prêtres païens, si vous voulez, des mages, comme disait l'autre, qui répondent pas du tout. Pas du tout. Notre problème, c'est d'apaiser la colère de Dieu. À l'origine, il y a une colère et on paye les conséquences de la péché originelle. Vous voyez que c'est clair. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez vous passer ce diplôme, parce que ça mérite d'être vu. Sans doute, il est possible que certains d'entre vous le reçoivent. Et je ne savais pas qu'à l'occasion de Yom Yerushalayim, on pouvait aussi vivre pourri. Et vous me le rendez parce que je vais faire encadrer le maître à Jérusalem. C'est très joli d'ailleurs. Alors, vous pouvez passer. Lisez la voix, comme ça vous avez fait rire tout le monde. Lisez la voix.
Fonds social juif unifié, agent juif pour Israël. Fonds social juif unifié, agent juif pour Israël, département d'action culturelle, département d'éducation et de la culture. Aleph d'or des Ulpanim, remis à Manitou, notre maître, pour ses efforts, son assiduité et ses progrès en hébreu, à l'occasion de Hiloula sur Seine, Yom Yerushalayim, dimanche 28 mai 1989.
Donc voilà, c'est. Non, c'est un diplôme qui va être remis, qui a dû être remis dimanche aux Ulpanim. Alors, pour me faire plaisir, ils me l'ont donné comme ça. Mais regardez à quoi ça sert le Yom Yerushalayim. Alors, ceci dit, il y a une sincérité étonnante. J'ai vu dans une des annonces pour Yom Yerushalayim, je crois que dans l'actualité, je ne sais pas quoi, tant de centaines de milliers de kilomètres si loin de là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, nous allons fêter la Hiloula, et ici nous serons les fidèles de Rabbi Shimon. Oui, oui, elle.
Je voudrais poser une question qui n'est pas tout à fait dans le sujet du séminaire, qui est un petit peu à côté. C'est une question, enfin, c'est un point qui me laisse un petit peu perplexe, qui est le suivant. Sauf erreur de ma part, la lignée messianique commence avec Lot et ses deux filles.
Par Ruth, pour Ruth.
Attendez. Ça commence par Lot et ses deux filles, par Moab.
Attendez, par Ruth.
Oui.
La ligne messianique, ça commence avec Juda et Tamar, pour David.
Bon, mais il y a quand même la lignée par Ruth.
D'accord, c'est la prison que je vous donner.
D'accord.
C'est la formulation, une préface à cela. Si
c'est ça. Or, ça commence avec quelqu'un, Lot et ses filles, mais Lot qui est, si je me souviens bien d'un de vos enseignements, un petit peu une approximation d'Abraham, pas une approximation, mais quelque chose qui aurait pu réussir, mais qui n'a finalement pas réussi.
Très bien.
Et deuxième phase, ça se passe avec un inceste.
Oui.
Parallèlement à cela, on a l'affaire de Judas et Tamar, qui se passe d'une façon, qui n'est pas très cachère, si je puis dire.
Apparemment.
Apparemment.
L'objet de cette étude, c'est pour vous montrer de quoi il s'agit.
Oui, mais justement, alors ce qui me rend un peu perplexe.
Mais arrivé jusqu'à Ruth et Boaz, c'est.
C'est que le début commence dans l'impureté.
Oui.
C'est ça qui me rend perplexe. Pourquoi commencer dans l'impureté ?
Très bien. Alors on va se rebrancher sur une question parallèle à celle du péché originel tout à l'heure, mais une minute que je trouve le midrash que je vais vous citer. Et que nous dirons demain votre main si on y arrive. Un verset de l'histoire, non pas encore, mais je vais y arriver. Voilà. Sur un verset de l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, le verset dit, et elle lui dit, va tomer Shikva imi. La femme de Potiphar disait à Joseph, vous verrez dans le texte, et c'est une expression brutale, shirbaim, littéralement ça veut dire dors avec moi. Donc, le mot est un peu plus grossier, mais enfin c'est le même. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Shmuel, fils de Nachman, enseigne. Oui. Arurim hem archaim, maudit soit les rechaim. Les halan, plus tard, dans le livre de Ruth, quand Ruth s'adresse à Boaz, elle dira, ufarasta knafecha ala matecha. Et tu étendras ton manteau sur ta servante. La raison pour laquelle, d'ailleurs, au moment du mariage, on met le talit du fiancé sur la fiancée. Ça veut dire, elle le demande en mariage en lui disant, mets ton talit sur moi. Alors que la femme de Potiphar dit à Joseph, Shekhvaïm. Avalzo kibhema batomer Shekhvaïm. Ruth va dire à Boaz un langage propre. Okay. De cette initiative qui vient des femmes dans toutes les. Nous y avons fait allusion avant-hier, dans toutes les scènes que vous avez citées, au moment où il faut forcer cette impossibilité, l'événement, c'est l'homme qui le réalise, c'est Judas qui fait ce qu'il faut faire, mais l'initiative, rappelez-vous, on a dit, c'est Tamar. Donc, comme pour les filles de Lot, comme pour. Mais celle-là, c'est-à-dire la femme de Potiphar, comme une bête, pas ton mère chez Tibéma. Le commentaire que je vous ai dit explique. Sur notre midrash, c'est la troisième des réponses de l'analogie, c'était pour nous enseigner que de même que Tamar, par rapport à Judas, elle était l'Echem Shamaïm, elle voulait engendrer le Messie, de la même manière, il faut comprendre que la femme de Potiphar était aussi l'Echem Shamaïm. Vous vous rappelez qu'on a eu cet étonnement. Et le midrash explique elle savait par horoscope qu'elle aurait un fils de Joseph l'Hébreu, que cette Égypte devenue matrice stérile serait fécondée par l'Hébreu. Bon. Mais elle ne savait pas si c'était d'elle ou de sa fille. Vous vous rappelez de
ça ? Oui, c'est ça.
Alors le commentaire explique, bien qu'elle ait été les Shem Shamaïm, la conduite est grossière. Alors qu'il faut attendre Ruth pour que cette conduite soit épurée, sanctifiée, transfigurée. Bon, alors ça me branche sur votre question. Je dirais deux choses assez rapidement. Il s'agit d'enfanter le Fils de l'homme. Or, pour enfanter le Fils de l'homme, il faut qu'un papa et une maman le fabriquent. Okay. C'est clair. Et par conséquent, la tradition biblique hébraïque juive parlera de l'enfantement du Fils de l'homme dans une conception très maculée. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Okay. Alors que justement, par contraste, le mythe de l'Immaculée Conception va aller à l'opposé. Il faut surtout que ça ne se passe pas normalement. Horreur des horreurs. Comme nous avons l'habitude de dire, eux ils disent horreur et damnation, nous avons l'habitude de dire horreur et Notre-Dame de Sion. Il y a ici encore une fois un thème que vous avez désigné qui est très important. Je reprends votre question. C'est comme ça que ça doit se faire, jusqu'à ce que ça soit pur. Et alors, ben, c'est comme
faut
ça.
Il faut pas dire pur ou pur.
Il faut comprendre que la Torah, c'est la Torah de vérité, de la réalité. Elle nous raconte de quoi il s'agit. Alors voilà les tentatives dans l'impureté, jusqu'à ce qu'en fin de compte, c'est Ruth et Boaz essaient dans l'impureté. Vous voyez, Mdash, d'une ligne, qui a répondu à la question. Et la générosité du Mdash va jusqu'à dire, même la femme de Poutifar, elle est prise dans cette exigence de la féminité du monde d'engendrer le Messie, mais comme une bête. C'est clair ? Voilà, je pense que... Oui.
Qui a épousé
Asnat,
qui
est la fille de Shrem et de Dina, et qui était esclave de Poutifar et de Madame.
Qui était esclave de Poutifar
et de Madame. Elle était une esclave achetée au marché par la femme de Poutifar, qui l'avait adoptée comme fille adoptive. Et alors, Joseph a préféré Asnat à Madame Poutifar. Quand on arrive à cela, nous avons la différence de typologie. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est, si vous voulez, l'histoire dévoilée, l'exil commence avec Joseph. Non, il y avait quelque chose avant. L'exil a commencé par la descente en Égypte de la fille de Shrem et de Dina. Voilà. Et une minute, je vous dis, parce que c'est très significatif. Et d'une certaine manière consolante. Ça explique l'infime détail le plus aberrant, apparemment, de notre histoire de juif errant et aberrant. C'est que, voilà comment le Midrash raconte. Joseph était seul en Égypte, occupé à son rêve. Il faut engendrer les toladotes du Machiar, et il y avait quelle femme de cette civilisation. Et qu'un jour, au marché, il rencontre une esclave qui avait un magen David autour du cou. Il dit, mais c'est toi. C'était le. Asnat, puis... Je pense, non, c'est le Midrash, la Magen David de Midrash. Je pense à tous ces juifs et ces juifs qui, finalement, dans l'exil, il ne reste plus que ça. Avoir un Magen David autour du cou. Et là, c'est d'eux que sortira le Mashiach. Mais pourquoi c'est consolant? Alors, je plaide pour aucun bijoutier. Allez acheter un Magen David là où vous voulez. J'ai pas d'action. Quel?
Je me demandais comment ça se fait que justement cette rencontre réussie entre Ruth et Boaz, comment ça se fait qu'elle ait lieu dans le Nar et pas dans la Torah ? Pourquoi au niveau de la Torah il n'y aurait pas pu y avoir déjà
très bien. Très bien, je vous donnerai mille réponses, mais une seule. C'est que la Torah a donné les commencements de toutes ces histoires que développe le Tanakh. Donc, le Nar fait partie du Tanakh, dont la Torah est le commencement. La Torah, c'est le livre de commencement. Bereshit, ça commence. Mais la Torah a indiqué tout de suite que ça va aller jusqu'à David, dans ce chapitre 37. Et dans le livre de Ruth, on va rattacher la rencontre de Ruth et Boaz à Juda et Tamar. Je vais dire le verset. Oui, c'est lié. Et ça, c'est derrière votre question, il y a une question d'exégèse importante. Les exégètes universitaires étudient chapitre de la Bible comme si l'un ne connaissait pas l'autre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous avez compris ? C'est-à-dire, alors que c'est un tout, la Bible. On ne peut pas comprendre Isaïe avec le postulat qu'Isaïe ne connaissait pas la Torah. Mais je vous garantis, j'ai étudié des doctes, j'ai écouté des doctes professeurs parler d'Isaïe avec le postulat qu'Isaïe, bien sûr, ne connaissait pas la Torah, ça n'a rien à voir. Alors qu'on ne peut pas comprendre le début d'un verset d'Isaïe sans toute la Torah. Et comme c'est qu'un livre de Ruth. Mais je vous donne un verset, vous me donnez deux minutes. Le peuple va bénir Naomi quand elle revient de Moab. Il y a le verset suivant. Vihi betecha et Naomi et Ruth, et que ta maison soit Kebet Peretz, comme la maison de Peretz, le fils qui est né de Juda et Tamar, Asher Yalda Tamar Yehuda, que Tamar a enfanté à Juda, Minazera Asher Itenachem Mecha Minanara Azot, de la postérité que Dieu te donnera de cette jeune fille, qui était, cette jeune femme Nahara, qui était Ruth. Le verset précédent dit, je vais vous dire, à partir du verset 11, verset 11 dit, voyons-vous, Kolaham, et tout le peuple, Asher Bachara, qui se trouvait à la porte de la ville, Baskenim et les anciens, Aïdim, qui étaient les témoins de la transaction entre Boaz et le Goël de. Vous vous rappelez de l'histoire, Aïdim, qui était le témoin, Itenachem et Aïcha Abba El Betecha, que Dieu donne cette femme qui vient dans ta maison, et Rachel ou Chléa, comme Rachel et Léa, Asher Banu, Shtehem et Bet Israël, qui ont construit toutes deux la maison d'Israël, va assez Haïl de Ephrata, et réussi à Ephrata, ou Krachem et Bethlehem, et invoque et réputation à Bethlehem. Vous voyez comment c'est relié, okay? D'ailleurs, ces deux versets sont lus dans le Ritz Farad, en tout cas, surtout chez les Tunisiens, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus populaires là-dessus, c'est-à-dire marqués dans les mariages, au moment de dire la Ketouva, on lit ces versets-là. Donc, y a-t-il une autre question? Oui? Ça sera la dernière, parce que ça va être l'heure à
8h30. Qui est descendue en exil?
Pas Dina, la fille de Dina, Asna.
Le premier symbole de la
Shekhinah
en
Yézou. Très bien.
Et alors, c'est quand même pas Godamir qui symbolise le retour.
Mais non, mais il s'agit des Juifs. Oui, vous faites encore une analogie.
Non, mais parce que je veux que Pharaon.
Mais c'est pas Godamir qui serait la typologie, là. Au contraire. Il s'agit de toutes ces. Vous savez, depuis qu'on a. Que les tribus d'Israël de l'exil se sont rencontrées, on a découvert des juifs clandestins, ne serait-ce que les juifs éthiopiens, qui pendant des milliers d'années ont vécu dans une clandestinité absolue. Alors imaginez cette manière d'être juive qui n'est identifiée en rien. Et pourtant elle a la Marine David sur le coup. Alors un jour ça se dévoile, ça se révèle, ça se libère. Je pense surtout aux juifs de Russie, par exemple. Imaginez qu'à Simchat Torah, comme vous le savez, depuis quelques années, il y a un monde fou à la synagogue de Moscou. Et ces juifs et ces juifs qui sont là-bas, hein, n'ont strictement rien du patrimoine juif. Le rouleau compresseur russe est passé depuis 100 ans, à peu près, 70 ans. Donc, et tous ceux qui sont allés s'occuper d'eux nous racontent à quel point il y a une ferveur d'identité incompréhensible. Ils ne savent rien. Je vais raconter une des anecdotes. Que j'ai entendu, mais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, d'un responsable. Non, je veux dire, c'est authentique mais vrai. Il y a à peu près toutes les semaines des équipes d'Israéliens ou de non-Israéliens parfois qui vont s'occuper, en clandestinité, qui vont s'occuper des communautés juives en Russie depuis des années. Vous savez. Alors voilà une scène, c'est à Pessah. Et ils sont reçus chez un juif russe habillé comme une carte. Il y a la redingote, le chapeau, le pion. Bon, il reçoit avec joie, mais c'est très bien, vous avez passé Pessah avec nous. On n'a rien à manger, mais je vais aller acheter à manger. Et puis, il sort un petit paquet de matzot miraculeux qui était là. Et puis, il va à l'épicerie acheter une boîte de porc et il leur tartine. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, quoi, c'est pas bon, c'est de la matza. Il dit, tu sais pas que ça, c'est pas cachère. Qu'est-ce que c'est cachère? Et alors le fonctionnaire qui m'a expliqué ça raconte que la mission précédente, il y avait un des orthodoxes comme ça, habillé comme ça, qui était en mission d'ailleurs, qui a expliqué comment un juif s'habille. Non, le séminaire c'était comment un juif s'habille. Alors il y a des juifs qui sont habillés comme ça, mais ils ne savaient rien d'autre, tout simplement. Alors regardez dans quel état ils sont. Voilà, c'est ces juifs qui ont juste un petit magasin symbolique. Et c'est pas eux qui ont fait l'État d'Israël. C'est pas Golda Meir, ça. C'est un autre profil d'identité. Ça, c'est Asnath que Joseph rencontre et vient à ses portes. Il va raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années en Israël. C'est vrai qu'on s'occupe de groupes de jeunes divers et variés. Et alors, ce qui s'est passé dans un groupe. Une jeune fille de France, qui demande à la madricha, cette semaine, c'est quel jour Shabbat? Parce que la semaine d'avant, c'était samedi, mais c'est pas pensé que ce soit toutes les semaines de samedi. Alors, quand on arrive à un degré de déjudaïsation pareil, et qu'on est juif au point d'aller dans un groupe de jeunesse en Israël, il se dévoile quelque chose d'assez mystérieux. Les deux choses sont identiques. C'est-à-dire, c'est déjudaïsé totalement, et c'est l'identité juive en effervescence. Les deux choses sont authentiques. Il y a un peu de ça dans le Magen David de Asnath, dans le Midrash.
On devait revenir sur la signification du fait que les juifs ont quitté le monde de l'islam.
Non, je t'ai annoncé que ça va être un des sujets du séminaire de novembre. Okay. J'ai dit, ça pose une question.
Moi, je n'ai pas compris à propos des juifs qui étaient justement de cette héra qui était en l'histoire. Ils n'étaient pas d'Ismaël, ils n'étaient pas d'Isaac à ce moment-là.
D'Isaac, oui.
D'Isaac.
Mais je dis, le monde Sfarad.
Alors, les Ashkenaz sont de Jacob et les.
C'est ça. C'est-à-dire, le monde Sfarad, c'est Isaac chez Ishmael. Et le monde Ashkenaz, c'est Jacob chez Ésaü. Et ce que j'ai indiqué très rapidement, c'est que cet exil d'Ishmael a pris fin, est en train de prendre fin. Je crois que ça sera complètement fini quand il n'y aura plus la monarchie au Maroc, probablement. Parce qu'actuellement, la seule protection d'une communauté Sfarad en pays d'Islam, c'est le roi du Maroc. Il n'y en a pas deux. Et, ou bien s'il y a un roi qui ne connaîtra plus Joseph, comme dit le verset. Et on ne peut pas ne pas prendre acte de cela. Les Sfaradines sont exilés de leur exil, parce que l'identité d'exil des Sfaradines, c'est les pays d'Islam. Même l'Espagne. L'identité des Sfarades s'est constituée dans l'Espagne musulmane, et ensuite a été traduite dans l'Espagne. Toutes les œuvres des grands sfaradines du Moyen-Âge sont en arabe, vous savez. Je ne dirais pas arabe, je dirais c'est arabe, mais c'est une situation mort, selon le moresque. Mais quand même islam. Ce n'est qu'après, en second lieu, ça c'est hispanique.
Mais il y a ceux qui sont partis Amsterdam.
Mais oui, ce sont des sfaradines qui sont allés s'installer en pays Ashkenaz. C'est un des modèles d'ailleurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est très général. Et en particulier, la France est sûrement un laboratoire pour sociologues à ce niveau-là. Que devient l'identité juive dans une communauté où la population est sfarade, mais le rite est ashkenaz? Ça dépend, mais en schématisant, c'est ça. Je peux vous citer énormément de cas de yeshivot ou d'école en France, où l'immense majorité de la population, les élèves, les professeurs, les directeurs sont des sfaradines, mais le style est ashkenaz. Même quand le rite est sfarade, et le style est ashkenaz. Ça, c'est le problème en diaspora. En Israël, c'est différent. En Israël, il y a un peuple sfarade. Mais en diaspora, les ashkenazim ont rejoint les. C'est grave, les sfaradim ont rejoint les ashkenazim. Il y a une signification typologique très profonde. Je scandaliserai mes frères sfarades en leur disant que l'histoire sfarade est close. Sauf en Israël. Phrase non payée par un juif. Bon, non, je vais simplement dire si vous avez des peut-être en introduction, si vous avez des questions qui sont restées en suspens au cours d'hier soir, vous allez me rappeler, j'en ai encore une en tête avant d'avancer, ou bien si vous avez des questions sur la conférence d'hier soir, pour ceux qui étaient là, parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir vraiment un débat. Et qui était là à la conférence hier soir? Oui, j'y étais. Top. Alors je vous écoute. Peut-être c'est pas la fin de l'enregistrement. On commencera l'enregistrement au cours même. Hein? Oui, je vous écoute.
Je voulais savoir parce que j'ai parlé avec M. Dupuis juste après. Et il m'a un petit peu troublé parce qu'il disait que
Attendez, répétez, que les 70 nations.
Que les 70 nations ont écouté également le baptême Torah, enfin le don de la Torah. Il me disait que c'était un midrash et que les midrash, il ne faut pas trop y croire. Alors, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut donner comme argument pour dire que les midrash, par contre, ils sont vivants.
Bon, c'est à vous qui a dit ça, c'est pas à moi. Mais je veux d'abord préciser, il n'y a aucun midrash qui dit que les 70 nations ont écouté au Sinaï. Si vous vous souvenez bien, ce que j'ai cité hier, c'est que lorsqu'il y a eu la révélation du Sinaï, elle s'est faite simultanément à la Shana Kodesh pour Israël et dans les 70 langues pour les 70 nations. Je n'ai pas dit qu'ils ont reçu. Okay. Vous comprenez la différence? Il y a un autre midrash, si vous voulez, je vais vous le dépister. Seulement, il faudrait que quelqu'un me ramène ce livre-là, mais de Dvarim, qui est au bureau de M. Kadouche, sur la table ronde, si quelqu'un veut lire. Un chevalier à la table ronde. C'est, vous voyez, ce livre vert de Torah Midrash. Il y a un midrash qui dit qu'effectivement, toutes les nations ont été visitées. Une discussion chez les commentateurs du Midrash, par qui et en quel temps, donc chacune en son temps, et chacune par ce qu'on pourrait appeler les prophètes des nations. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Je dis tout de suite qu'il y a un thème des prophètes des nations jusqu'à la génération du Matan Torah. Ensuite, Moïse a demandé qu'il n'y ait plus de prophètes chez les nations. Je ne sais pas si nous avons étudié cela. Page 7 de Maseret Brachot, je peux dire. Et donc, et que les nations ont refusé la Torah, et que Israël seul l'a accepté, donc reconnaît ce Midrash. Alors, ceci dit, que le Midrash, il ne faut pas y croire, ça, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, s'il m'avait dit ça à moi, vous aurez entendu la réponse. D'autant plus qu'il est spécialiste du Midrash. Enfin, spécialiste chrétien du Midrash juif.
C'est assez répandu chez les chrétiens. Avec les midrash, on peut tout faire.
Eh bien, oui.
Et pour les vinains, c'est la pensée juive.
Oui, oui. Malheureusement, chez beaucoup de juifs aussi, j'ai entendu. On les entend de moins en moins depuis que le midrash est étudié, alors que vous vous rendez compte. Vous êtes en travaux pratiques, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, au contraire. C'est clair. Et c'est tout simplement, encore une fois, les avatars des études par traduction. Les traductions donnent toujours ce que j'ai appelé hier un parfum de sens, et alors ça s'évapore, c'est vaporeux, parfum de... Et alors il y a des associations d'idées de lecteurs, commentateurs, interprètes, exégètes, de traductions, alors, ce qui fait que les lecteurs font dire au Midrash n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que le Midrash dit n'importe quoi. Je crois que c'est clair ce que je propose. Alors, il n'y a aucun souci, mais c'est à côté. On appelle ça en hébreu « ch'touyot ».
C'est un midrash que Moïse a demandé qu'il n'y ait plus de prophètes chez les nations.
Oui. J'entends. Oui. Alors, donne-moi un maseret Shabbat, un maseret Brachot. Vous avez une série de Talmud par là. Les bibliothécaires, là, complètement. Ah, moi, regardez, c'est un Talmud ici. Vous voyez là? Il y a un Talmud ici, je vois pas. Oui, regardez ici, il y a le volume Aleph, Maseret Brachot. Et en général, le Midrash met en évidence des implications d'un verset, étant donné la forme du verset et les problèmes d'exégèse que pose la forme d'un verset. Alors, le Midrash établit. Mais de façon rigoureuse, ça ne peut pas vouloir dire autre chose, c'est calculé. Enfin, ça se calcule pendant l'étude. Vous avez remarqué depuis 2-3 jours, nous sommes sur la moitié d'un verset avec le Midrash. Vous avez remarqué ça. Hakerna, Tzadekamimani, on n'y en a pas fini encore. Alors, si vous voulez, je vais commencer par votre question. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que Moïse a demandé qu'il n'y ait plus de prophétie chez les nations? Il me semble que nous avons déjà étudié cela une fois, mais il y a eu tellement d'études, je ne sais pas si c'est avec vous, ici. Mais en tout cas, je vais le rappeler. Alors, donnez-moi une minute que je retrouve cette page. Ça va être la page 7. Ah non, ça fait un midrash, c'est pas un Talmud, ça. Non, le Talmud, c'est les noirs. Il n'y a pas la lettre. Alors regardez, vous avez là dans les rayons une petite collection du Talmud. Enfin, il faudrait que ce soit un Talmudiste qui reconnaisse les livres. Les Talmudistes, levez-vous. Mais ils sont pas là. Attendez, je vais regarder. Dans l'Exode, chapitre 33, verset 16. Je vais vous dire d'abord le verset, et nous allons lire ce midrash dans le grimoire. Alors, la référence, c'est traité de Brachot, page 7a. Exode 33, 15. Une expression dans ce verset, lorsque Moïse a reçu la Torah, la Gemara explique qu'il y a eu un dialogue préalable entre Dieu et Moïse, entre Moïse et Dieu d'ailleurs, c'est des questions de Moïse qui sont préalables à la révélation de la Torah. Bon, ça aussi c'est un tel pour lui-même. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, dans la même page du Talmud, qui posait cette question, avant de recevoir la Torah, Moïse avait une question à poser à Dieu. Madoua, tzadik vetovlo, tzadik verarlo, rachar vetovlo, rachar verarlo. Pourquoi existe-t-il ceci, qu'il y a des justes et ils ont du bien, des justes et ils ont du mal, et il y a des méchants, ils ont du bien, des méchants et ils ont du mal. C'est évidemment de façon logique, nécessaire, une question préalable à l'événement qui va se passer. Jusque-là, l'histoire du monde n'est pas jugée par une loi, par la loi morale, et par conséquent, le fait qu'il n'y ait pas coïncidence, parallèle, homogénéité entre le sort naturel, le goral, la destinée, et d'autre part, le mérite moral ne pose pas problème. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Mais à partir du moment où une loi va être révélée et qui est censée être la loi selon laquelle l'histoire du monde est jugée, alors se pose le problème de l'incompatibilité ou de la compatibilité entre le sort dans l'histoire, dans l'existence, et le mérite du point de vue de la moralité. Et la question est le scandale du juste souffrant ou du méchant bienheureux. En fait, il y a quatre questions qu'a posé Moïse. C'est pas seulement Dieu. Moïse ne demande pas seulement comme scandale pourquoi se fait-il qu'il y a des justes et qui souffrent, par exemple Job, peut-être, et pourquoi se fait-il qu'il y a des méchants et ils sont heureux, par exemple tous les présidents de tous les États. Enfin, ils ont des palais, vraiment, bref. Mais il y a quatre questions. Même le fait qu'un juste soit heureux, c'est une question. Et qu'un méchant soit malheureux, c'est aussi une question. Donc, si vous sentez que cette problématique s'ouvre de façon beaucoup plus totale. Parce que non seulement il est juste, et en plus il est heureux, c'est trop. Et non seulement il est méchant, et en plus il est malheureux, c'est pas compréhensible. Et c'est pas seulement de l'humour familial, c'est un vrai problème métaphysique. Et alors, bon, Moïse a reçu sa réponse, ça a dû le satisfaire puisqu'il a accepté de transmettre la Torah. C'est un problème extrêmement, extrêmement important. Alors en particulier, le Talmud en profite pour dire, et Moïse a demandé, a présenté un certain nombre de demandes, et elles ont été acceptées. Voilà, je vous dis, c'est dans cette page du Talmud, Ve'amar Rabbi Yochanan, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossé, au nom de son maître Rabbi Yossé, Shlosha Dvarim Bikesh Moshe Milifin Akadosh Baruch Hu Venatanu. Moïse a demandé trois choses à Dieu qu'il lui a données. Bikesh Tishre Shrina à l'Israël et Natanu. Il a demandé que la Shrina réside sur Israël, et ça veut dire pour notre sujet qu'il y ait prophétie en Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y ait capacité de comprendre le sens prophétique de l'histoire. Parce que c'est que la prophétie, c'est l'explication de l'histoire selon le Créateur. Est-ce que c'est bien clair? Je veux savoir si c'est suffisamment clair comme définition parce qu'elle est un peu ramassée. La prophétie ne prophétise pas n'importe quoi. Elle éclaire le sens de l'histoire. C'est bien clair? Les prophètes sont ceux qui comprennent ce qui se passe dans l'histoire. Rappelez-vous d'ailleurs l'étude que nous avons sur le verset du Midrash qui nous expliquait que, à propos du début du premier verset du chapitre 38, vous vous rappelez, que pendant que se produisent des événements dramatiques et tout le monde est en deuil, que se passe-t-il en réalité? C'est que Dieu prépare l'enregistrement du Messie. Vous vous rappelez de cela? Donc, c'est-à-dire, seul le prophète peut voir ce qui se passe, et pendant que celui qui vit ce qui se passe n'y comprend rien. et pose la question de Moïse. Pourquoi injuste, il a du bonheur, injuste, il a du malheur, pourquoi cet arbitraire, semble-t-il, entre la morale et l'existence? C'est clair. Donc, alors, il a demandé que Israël soit éclairé par la présence de Dieu, en vue de quoi? Pas pour fabriquer des voies à cinq pattes, mais pour comprendre l'histoire qu'il vit et savoir la vivre et de telle sorte qu'elle réussisse. Alors là, je dirais deux choses sur ce point. En principe, et ça va vous étonner, en principe, nous ne devrions pas être éclairés sur le sens de notre histoire. Parce que cette histoire, ce n'est pas une épreuve dans le sens chrétien, mais une épreuve dans le sens universitaire. Ça veut dire que c'est un examen. Nous sommes éprouvés dans le sens de mis à l'épreuve, pas forcément éprouvés dans le sens de valet de larmes et de douleur. Que ça, quand ça arrive, mais ce n'est pas pour ça que le monde a été créé. Et vous voyez bien que là, nous sommes très différents de la sensibilité religieuse chrétienne, ou de certaines d'ailleurs sensibilités religieuses, de toutes les traditions, y compris les traditions juives. Quand vous voyez des juifs en deuil, et puis ils se mettent en deuil parce qu'ils croient que ça fait pieux, ce n'est pas forcément qu'ils sont pieux, c'est peut-être qu'ils sont en deuil. Donc vous êtes confus. Et le beaucoup qui s'appelle comme ça, clin d'œil. Alors il s'appelle clin. Je reviens au problème. Je dis ça avec un clin d'œil. Mais pourquoi? Parce que le monde a été créé, il a été donné à une histoire au terme de laquelle il s'avérera qui aura mérité d'avoir été créé. Alors si nous jouons cette histoire en connaissant les règles du jeu, on en connaît un minimum, 613, c'est déjà pas mal. Mais si on joue cette histoire en connaissant les règles du jeu, alors tout est piégé, tout est faussé à l'avance, le concept de justice n'a plus de fondement, parce que celui qui connaît la martingale va gagner au jeu. Est-ce que c'est clair? Donc en principe, nous ne devrions pas avoir eu de révélation. Je parle du monde, ok? Mais voilà qu'il y a un peuple qui va être chargé d'une histoire particulière et tellement difficile qu'il a droit à être éclairé sur le sens de son histoire, c'est ce que demande Moïse. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on pourrait être étonné de cette question de Moïse. Ça va de soi, on ne parle que de ça dans tout le récit de la Torah, que la Shrina réside en Israël. Pourquoi il faut que Moïse la demande? Voilà, est-ce que c'est bien clair? Première question. Mais là, on lui a donné. Bikesh, oui, ainsi qu'il a dit, Allo belechtecha aiman. C'est le verset que je cite dans Exode chapitre 23, je vous ai dit verset combien? En quoi saurons-nous que nous sommes le peuple que tu t'es choisi? Je paraphrase un peu le verset. N'est-ce pas Allo belechtecha aiman? Par le fait que tu marches avec nous. Belechtecha, que tu es avec nous. La Shrina. C'est-à-dire que Dieu s'engage avec Israël dans la partie qu'Israël a jouée dans l'histoire du monde. L'histoire du monde tout entière, c'est une partie que Dieu joue avec toutes ses créatures. Mais particulièrement, il s'engage avec Israël parce qu'Israël a une tâche particulière. Vous vous rappelez, nous avons parlé hier soir de l'araméen, que les anges ne comprennent pas. C'est une langue familiale entre Dieu et Israël qu'aucun ange ne comprend. Les anges comprennent l'hébreu à travers lequel Dieu a créé le monde et gère le monde. Okay? Mais cette dimension très particulière de la créature qui s'appelle Israël, à qui Dieu a confié sa mise dans le jeu du monde, alors il y a une langue familiale, l'araméen, que Dieu seul comprend, les anges ne comprennent pas, que Dieu seul et les juifs. Alors, les juifs qui comprennent l'araméen. Mais rassurez-vous, j'ai dit un peu rapidement, l'araméen, ça a été une fois, cette langue familiale juive, à l'origine de l'histoire de la famille d'Abraham. Mais chaque fois qu'il y a un dialecte juif, c'est de l'araméen. Que ce soit l'yiddish, que ce soit le judéo arabe, que ce soit tout ça, c'est de l'araméen. L'araméen, c'est l'hébreu des Chaldéens. Le ladino, c'est l'hébreu des Espagnols. Bon, il ne faut pas être raciste. Un Espagnol, ce n'est pas moins important qu'un Chaldéen. C'est clair, ce qu'il dit. Et c'était là pour eux. Comme je dis souvent, toutes les manières d'être non-juif sont honorables. C'est pas de la vacherie. Je le crois très sincèrement. Mais nous avons des préférences. Nous, les juifs francophones, on préfère l'arabe. On ne sait pas pourquoi, mais il doit y avoir des raisons. Eh bien, les juifs anglophones, je vous garantis qu'ils préfèrent Qu'est-ce qu'il préfère? Le Minnesota. Bon, il préfère ce jargon britannique qu'on appelle l'anglais. Bon, etc. Imaginez que les juifs allemands préfèrent l'allemand. Et c'est très compréhensible. Incompréhensible pour un français, mais c'est compréhensible pour un allemand. Bon, c'est encore un autre chapitre, mais vous comprenez le projet. Alors, tout se passe comme si, à l'échelle générale de l'histoire de la création du monde, tous les rôles qui sont joués sont gérés par Dieu, mais il y en a un où il s'engage plus particulièrement, c'est le rôle d'Israël.